L'actualité francophone avec RFI, avec la radio-télévision suisse, la RTBF, Radio-Canada et France Inter. Au programme aujourd'hui, au Canada, un nouvel accord de libre-échange avec une dizaine de pays de l'Asie Pacifique. En République démocratique du Congo, toujours la répression contre les opposants au président Kabila jusqu'à l'envoi de gaz lacrymogène dans une maternité. Au programme également, la Belgique, toujours divisée sur la question sensible des migrants, la Suisse, où certains chirurgiens de la main sont en grève, et la France qui lance sa réforme du baccalauréat, un diplôme vieux de 210 ans. Voici l'actualité francophone. Bienvenue à tous. En Suisse, Virginie Mater, l'homme de la semaine est américain, c'est Donald Trump en visite à Davos.
18 ans qu'un président américain n'avait pas fait l'honneur de sa présence à la Suisse. Un déplacement coup de tête annoncé 2 semaines seulement avant l'ouverture du Forum économique mondial. La surprise a littéralement électrisé l'administration fédérale, à commencer par le gouvernement, lequel de nos 7 ministres allait donc pouvoir s'adonner à une ferme poignée de main. De son côté, le Gotha de l'économie, qui sait généralement bien se tenir, n'a pas non plus su cacher son excitation. C'était ambiance groupie dans la station. Le T-word, comme on dit, était sur toutes les lèvres ou dans toutes les têtes. Donald Trump a tenu ses promesses. Il est définitivement celui qu'on admire ou qu'on adore détester.
Pour l'Afrique, votre portrait de la semaine, Mehdi Medeb, c'est un chef milicien de Centrafrique.
Oui, Andilo, alias Rodrigue Ngaibona, est connu de tous les Centrafricains. Il a semé la terreur avec ses miliciens des anti-Balaka. Et il était jugé depuis le début du mois. C'était un peu le grand procès de la justice centrafricaine depuis que le pays a basculé dans l'horreur. Andilo était poursuivi pour l'assassinat de Casque Bleu de l'ONU, d'avoir exécuté un gendarme. Et pendant son procès, l'ancien coupeur de route a été impassible, stoïque, pas la moindre excuse. Au final, des travaux forcés à perpétuité. Et les ennuis ne sont pas finis car la nouvelle cour spéciale avec des magistrats centrafricains et étrangers pourrait de nouveau le juger.
Laurent Thérien au Canada, un certain Patrick Brown a dû quitter la direction du Parti progressiste conservateur de l'Ontario. C'est la conséquence d'allégations d'inconduite sexuelle.
Oui, Patrick Brown était destiné, selon plusieurs analystes, à devenir le prochain premier ministre de l'Ontario, la province la plus importante du pays. Il avait 12 points d'avance dans les sondages sur la première ministre actuelle, Kathleen Wynne, mais il a démissionné jeudi après que le réseau de télévision CTV ait rapporté que 2 femmes accusent Patrick Brown d'inconduite sexuelle. Patrick Brown aurait sollicité et obtenu des faveurs sexuelles alors que ces femmes n'étaient pas consentantes. L'une d'entre elles était mineure au moment des faits. Brown a démissionné de son poste de chef, mais il nie catégoriquement ces allégations.
Une apparition remarquée cette semaine en France, celle de l'ancien président Nicolas Sarkozy. Il a fait reparler de lui après plusieurs mois de cure médiatique. Il est apparu d'abord sur une chaîne de sport pour parler de football et uniquement de football. Officiellement hors du champ politique, Nicolas Sarkozy a tout de même assisté il y a quelques jours à une soirée des jeunes élus de la droite, les Républicains. Des jeunes élus à qui l'ancien chef d'État a conseillé, je cite, d'aller chasser en meute. Il faut dire que la droite française est divisée depuis l'arrivée il y a quelques mois d'un certain Laurent Wauquiez à la tête du mouvement français des Républicains. On va parler de tennis à présent. Le tennis vu de la Belgique, Nathalie Devic, car les Belges ont vibré à l'unisson toute la semaine en suivant à Melbourne les exploits d'une jeune joueuse prometteuse.
Oui, je peux vous dire que vu le décalage horaire avec l'Australie, les Belges n'ont pas beaucoup dormi cette semaine, du moins ceux qui ont suivi en direct la nuit les prouesses d'Elise Mertens, la grande surprise de cet Open de tennis. Elle ne s'y attendait pas elle-même. Pour sa première participation, cette inconnue du grand public a réussi à se hisser jusqu'en demi-finale, ce qui lui vaudra dès lundi d'entrer dans le top 20 mondial à 22 ans. Cela faisait longtemps que la Belgique rêvait d'une relève féminine depuis Justine Hénin et Kim Clijsters. Eh bien, c'est en bonne voix. La jeune Elise a montré une parfaite maîtrise. Elise Mertens, un nouveau nom avec lequel il va falloir compter.
Au Canada, Laurent Thérien, le partenariat transpacifique a donc été ressuscité cette semaine, mais un partenariat commercial sans les États-Unis.
Oui, le Canada et 10 autres pays de l'Asie et Pacifique se sont entendus sur les termes d'un nouvel accord de libre-échange qui permettra d'abolir des milliers de tarifs douaniers entre les pays signataires, dont le Japon, la 3e économie du monde. Les détails du futur accord n'ont pas été dévoilés. Il sera formellement signé au mois de mars à Singapour.
Et le Premier ministre Justin Trudeau s'est réjoui de la signature de cet accord. Il s'est même permis de critiquer le président américain.
Oui, mais jamais sans le nommer. C'est que la signature de ce nouveau partenariat transpacifique survient alors que les tensions entre le Canada et les États-Unis sont très fortes. Les deux pays renégocient actuellement l'ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain, et les discussions sont plutôt difficiles. Le président Trump a menacé de sortir les États-Unis de l'ALENA si les négociations ne sont pas à l'avantage des États-Unis. Alors, Justin Trudeau a profité de la signature du nouveau TPP pour rappeler que le Canada a des ententes commerciales un peu partout dans le monde et que si l'ALENA a en effet profité à l'économie canadienne, il a aussi profité à l'économie américaine. Mais le secrétaire américain au commerce Wilbur Ross a vu cette déclaration comme une façon de mettre la pression sur les États-Unis. Le sixième cycle de négociation de l'ALENA a lieu en ce moment à Montréal. Difficile de savoir quelle en sera l'issue.
L'envoi de gaz lacrymogène dans une maternité. C'est votre sujet de la semaine en Afrique, Mehdi Medeb. Ça s'est passé en RDC, dans le quartier d'Elvo, à Kinshasa.
Oui, c'est du jamais vu. C'est vraiment l'image qu'on retient de la répression qui se poursuit. Des catholiques ont tenté de nouveau de marcher pour dénoncer le maintien au pouvoir du président Kabila à la maternité du Saint-Sacrement. Des paroissiens avaient trouvé refuge dimanche dernier. Le père Raniclé était encore sous le choc.
Il est tiré de l'extérieur. C'est intolérable. Des bébés, inoffensifs, qu'on puisse leur lancer des gaz lacrymogènes sans se rendre compte de ce qui pourra en venir pour leur vie.
Et à l'intérieur, c'était le chaos. Maman Zizine, prise de panique, s'est réfugiée sous son lit, son bébé de 3 jours dans les bras, avec la peur qu'il ne succombe.
Ici, il y avait la gaz et de l'autre côté, il y avait des coups de balle. Et puis comme des bombes comme ça, boum. Oui. Et on était cachés là.
Bref, le stress total, une femme, Esther, en a même perdu les os. Elle a accouché 15 jours avant terme.
Ah, ça m'a fait très peur. Et puis la douleur que j'avais là, je n'avais pas pu supporter. Et puis Dieu nous a aidés, j'ai mis au monde un garçon. Nous étions vraiment traumatisés.
Et d'après le personnel de la maternité, les policiers congolais sont entrés ensuite pour ramasser les douilles, pour effacer les traces de toute répression.
Nathalie De Vic, la Belgique se déchire à nouveau sur la question sensible des migrants.
Avec ce nouveau projet de loi du secrétaire d'État à l'asile et la migration qui prévoit que la police puisse pénétrer chez des migrants ou les personnes qui les hébergent pour arrêter ceux qui se trouvent en situation irrégulière, autrement dit, qui ont reçu l'ordre de quitter le territoire. C'est effectivement un sujet très sensible en ce moment parce que de plus en plus de citoyens se regroupent pour dénoncer la politique migratoire du gouvernement et accueillir chez eux des familles en détresse en attendant que l'on statue sur leur cas. Ces citoyens craignent de faire désormais l'objet de perquisition. De nombreuses voix s'élèvent contre ce projet et notamment celle des juges d'instruction, peur d'être instrumentalisés sans autre choix que d'autoriser ces visites domiciliaires. La présidente de l'association syndicale des magistrats, Manuela Cadelli.
On se sert du juge d'instruction dans le cadre d'une loi scélérate pour intimider les citoyens qui œuvrent au sein de la plateforme citoyenne qui comprend maintenant plus de 30 000 personnes. Je suppose que c'est pour ça que le pouvoir politique veut réagir.
Ce que réfute le secrétaire d'État à l'asile et à la migration, pour Théo Franken, il ne s'agit pas de criminaliser les citoyens qui veulent se montrer solidaires, mais tout simplement de faire respecter la loi.
On ne vise pas les citoyens de la plateforme, c'est une autre chose, on fait un amalgame je pense. On fait ça, tous les gouvernements avant ont fait la même chose. C'était pas clair comment on devait faire ça. Maintenant, ça va être plus clair, plus correct je pense, et tout en ligne avec l'état du droit que la Belgique.
Comme cela se fait déjà pour les inspections sociales ou fiscales, ni plus ni moins. Quant aux juges d'instruction, promettons, ils garderaient toutes leurs facultés d'appréciation au cas par cas. Mais ces balises pour l'instant ne rassurent pas. Les associations de défense des droits de l'homme dénoncent l'instauration d'un climat permanent d'insécurité. Le projet va encore se voir discuté âprement au sein du gouvernement, où il divise plus que jamais.
En Suisse, certains chirurgiens de la main n'opèrent plus les patients atteints du syndrome du tunnel carpien. Les chirurgiens en question sont en grève et c'est un phénomène assez rare en Suisse, Virginie Mater.
Les Suisses aiment peu la grève et les médecins encore moins. Cette fois, c'est carrément une première. Des chirurgiens de la main du canton de Genève refusent de lever leur bistouri pour des interventions non urgentes pratiquées en ambulatoire. Et le syndrome du tunnel carpien est la plus emblématique de ces interventions. Les patients qui ont le nerf coincé au niveau du poignet doivent donc s'armer de patients et attendre la fin de la grève qui est prévue fin février.
Et quelle est l'origine en Suisse de ce mouvement de grève des chirurgiens ?
c'est la baisse des tarifs médicaux. Alors pour reprendre l'exemple du tunnel carpien, la rémunération pour l'acte médical est passée de 177 à 105 francs depuis le 1er janvier. Cette révision tarifaire, imposée par le ministre de la Santé Alain Berset, doit permettre une réduction des coûts de la santé estimée à environ 470 millions de francs par année. Mais l'argument ne convainc pas Michael Papaloizos, chirurgien de la main et porte-parole des grévistes.
C'est probablement la volonté initiale de M. Berset de vouloir réduire les coûts. On n'est pas contre non plus, a priori, puisque nous payons aussi des primes. Néanmoins, réduire les coûts, ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique et ça ne se fait surtout pas en proposant une mesurette, 400 millions d'économies sur 70 milliards de coûts de la santé. Ça fait rire tout le monde.
La Suisse est le deuxième pays qui dépense le plus dans le monde pour les soins. Toutes les parties s'accordent sur la nécessité absolue de freiner la hausse des coûts, mais pas sur la stratégie. Plusieurs spécialités médicales sont impactées par ces nouveaux tarifs, mais seuls les chirurgiens de la main genevois ont fait le pas de la grève. Le mouvement est d'ailleurs si discret que même le ministre de la Santé l'ignorait. Des négociations sont en cours avec les assureurs.
En France, c'était une promesse du candidat Macron, la réforme du baccalauréat est sur les rails. Ce diplôme qui ouvre la porte aux études supérieures a été créé en 1808 par Napoléon et la dernière grande réforme date de 1969, ce qui vaut d'ailleurs au bac le sobriquet de grosse usine à gaz. Alors parmi les pistes de réforme envisagées, priorité au contrôle continu avec une moyenne qui compterait pour 40% de la note finale. On trouve aussi un grand oral de 30 minutes pour que chaque lycéen vienne présenter devant un jury un projet interdisciplinaire. Il y a aussi un dispositif dit de matière majeure, de matière mineure aussi, tout cela au choix des élèves. Enfin, il n'y aura plus d'épreuves de rattrapage remplacées par une analyse du livret scolaire du lycéen sur ces deux dernières années. Toutes ces pistes de réflexion sont plutôt bien perçues pour l'instant par la plupart des acteurs de la filière. À l'instar de Luc Ferry, il est ancien ministre de l'Éducation nationale.
C'est une très bonne réforme, enfin. Et après, il faut voir, il faut peaufiner le détail. Mais globalement, les grands axes sont excellents. J'ai toujours plaidé pour une part de contrôle continu au bac. C'est beaucoup plus juste d'avoir une part de contrôle continu au bac. Et puis en plus, ça évite cette espèce de monstruosité d'un examen qui coûte plusieurs milliards d'euros. Et qu'il y ait un système de majeurs et de mineurs. Ça va permettre à chaque élève de choisir ses points de force. Et aussi, ce qui est très important, de ce qu'on a envie de faire plus tard. Donc je pense que ces deux points de la réforme sont excellents.
Voilà donc pour ces pistes de réflexion pour réformer le bac en France. Et toutes ces propositions sont présentées le 14 février en Conseil des ministres. Voilà pour le tour d'horizon de l'actualité francophone. Merci à tous les contributeurs de Suisse, de RFI, du Canada, de Belgique et de France. Le prochain rendez-vous, ce sera la semaine prochaine, au même endroit et à la même heure.